L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Bâtard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Mes divines pépites, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer toutes nos découvertes védiques et parler d'un sujet un peu tabou, un sujet qui fait peur et qui est peu mis en lumière. Nous allons parler des sciences védiques et des soins palliatifs. Car oui, ici, nous parlons très souvent de sourire et de joie, mais c'est aussi à travers la douleur que les Védas ont toute leur place pour apaiser les maux. Alors déjà, qu'est-ce que l'on entend par soins palliatifs ? Selon l'OMS, les soins palliatifs sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients, adultes et enfants, mais aussi de leurs familles confrontées aux problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Ils préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, l'évaluation correcte et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychosocial ou spirituel. Dans les textes de sagesse indiens, on parle beaucoup des douleurs, on parle beaucoup de la fin de vie, du passage, hein, parce que la mort n'est pas considérée comme une fin en soi, et traditionnellement, toutes ces étapes sont envisagées de façon individuelle, préparées et surtout, elles sont accompagnées. Pour échanger sur ce sujet, j'ai le grand bonheur d'avoir à mes côtés ce soir une consœur au cœur d'or. Elle est praticienne en médecine ayurvédique, fondatrice de Mamtananda Ayurveda, professeure de yoga, enseignante et praticienne de Reiki. C'est une véritable globe-trotteuse qui s'est formée en Inde, au Canada, aux États-Unis et au Népal, tant sa soif de découverte est intense. Mais c'est avant tout une femme qui est pleine de douceur, qui respire la bienveillance. Bonsoir Mariam Fazlolahi.
Bonsoir Gwenaëlle, bonsoir à tous.
Merci d'être là, c'est un vrai bonheur pour moi de partager ce moment avec toi. Alors pour commencer, déjà Mariam, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé à t'intéresser aux soins palliatifs ?
Alors c'est un cheminement qui date d'il y a une vingtaine d'années. J'avais commencé par des lectures qui m'avaient fascinée, en particulier l'ouvrage La Source Noire de Patrice Van Hersel qui répertorie beaucoup les expériences de mort imminente, etc. Et donc tout ce qui a trait aux expériences périmortelles et voilà, et comment sont répertoriées même de manière scientifique toutes ces expériences-là et qui prouvent un peu la poursuite de la vie, en tout cas de la conscience après la mort. Donc c'est déjà un sujet qui me fascinait à ce moment-là. Ensuite, de manière plus anecdotique, mais qui a quand même eu son effet, j'ai été fascinée par la série Six Feet Under. Peut-être des personnes connaissent. En tout cas, moi, ça a été une véritable thérapie, parce que donc c'est une série qui parlait évidemment de la mort, qui suivait une famille de funèbre. Et donc, nous, la mort était abordée à chaque épisode. On pouvait voir toutes les différentes manières dont on pouvait mourir. Et donc, ça avait été aussi, ça m'a poussé à me questionner beaucoup sur la mort et bien sûr sur la vie en général. Et puis, voilà, il y a aussi eu du coup le visionnage en 2014 d'un documentaire qui s'appelle Alive Inside, qui parle en fait des personnes atteintes d'Alzheimer et comment en leur faisant écouter de la musique, en particulier de la musique qui résonnait en eux, ça pouvait les amener vraiment dans des états où la mémoire revenait, ou là où ils pouvaient être dans des états végétatifs, ils pouvaient de nouveau être animés et avoir des souvenirs qui revenaient. Et donc ça m'a vraiment profondément marqué, ce documentaire. Et ce que j'ai fait, donc je venais d'arriver aux États-Unis pour mes études d'Ayurveda, et donc je me suis inscrite en tant que bénévole dans l'association des hospices du Nouveau-Mexique, Et donc là, j'ai été, on m'a en plus de demandé de suivre des patients atteints d'Alzheimer. Et donc là, j'ai pu créer des playlists et mettre aussi en pratique ce qu'on apprenait en Ayurveda à ce moment-là. Que ce soit des petits conseils au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, bien sûr, de la présence et de la spiritualité, par le chant de mantra ou la lecture de textes sacrés comme Bhagavad Gita. Et donc là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un impact considérable sur la personne, sur sa qualité de vie, sur la lumière dans leurs yeux. Et donc là, j'ai du coup, ça, là aussi, c'est resté avec moi. Et donc, et puis là, récemment, depuis mon retour en France, eh bien la vie m'a amené aussi à intégrer ça de manière très pratique, puisque donc j'ai été amenée à accompagner ma maman en fin de vie sur l'année qui est passée. Donc voilà, donc ça, tout est intégré.
Ouais, en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en effet qui t'ont amené à ça. Moi, ce que j'entends aussi dans tout ce que tu dis, quelque chose de très beau, hein, c'est comme si tu créais de la vibration avec les sons, hein, notamment. Enfin, cette histoire de musique, de son, créer de la vibration en fait à l'intérieur des gens, à l'intérieur du corps, faire résonner le vivant en fait quand on pense que tout est endormi. Il y a un peu ça. J'entends ça dans ce que tu racontes.
Oui, c'est vrai qu'en tout cas, enfin, c'est quelque chose qui m'anime vraiment avec les Védas, c'est justement cette quête de l'union entre le corps, le mental et le cœur, l'âme. On dit dans les sciences védiques que l'âme réside dans le cœur, et c'est vrai qu'à travers la musique, les sons, les mantras, ben c'est une des manières. Il y a plusieurs manières de faire vibrer comme ça le vivant en nous, mais c'est quelque chose qui me parle, qui résonne vraiment pour moi, et bon, j'ai l'impression que vu que ça résonne pour moi, ben quand j'en parle ou quand je le pratique, c'est vrai que ça s'exprime aussi chez l'autre.
Mais oui. Mais alors, du coup, pourquoi, à ton avis, pourquoi c'est important d'accompagner les patients ou les clients, enfin voilà, en soins palliatifs? Parce que bon, ça nous paraît une évidence, hein, à nous, mais peut-être que c'est pas évident pour tous. Alors, pourquoi c'est important d'accompagner les patients en soins palliatifs?
Alors, déjà pour moins souffrir, et on parle, comme tu l'as très bien dit dans en introduction, après la définition de l'OMS, on essaie d'améliorer la qualité de vie, autant au niveau des souffrances physiques que des souffrances aussi mentales, émotionnelles et spirituelles. Donc il peut y avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de solitude aussi, surtout dans notre société actuelle où autant dans les anciens temps on vivait sur plusieurs générations sous le même toit et il y avait une continuité, un accompagnement naturel. Là, ça peut il peut y avoir un éloignement, une isolation. Donc c'est important d'être là, d'être présent. Pour accompagner dans cette étape qui est importante, cette transition. Autant on accompagne, on prépare à la naissance, mais je pense que c'est important de préparer, d'accompagner dans cette transition. Donc il y a cette partie, bien sûr, de soulager les souffrances, les angoisses, et d'amener justement cette joie intérieure avant de retrouver la source. On parle de... Là, je lisais récemment un ouvrage formidable qui s'appelle « La vie après la mort, pourquoi il faut y croire » d'Olivier Chambon et Marie-Odile Riffard, et qui répertorie justement toutes les expériences qui ont été faites ou des études scientifiques qui ont été faites depuis les années 50-60 autour de la mort et des expériences périmortelles. Et Et c'est vrai que on dit que l'état d'esprit dans lequel on est au moment de la mort va pas mal influencer le cheminement. Donc je pense que c'est toujours plus sympa d'avoir autour de nous de l'amour, de la bienveillance et du positif pour que cette transition soit plus douce.
C'est clair. Exactement, plus lumineuse. En effet, c'est ça, c'est peut-être aussi apporter du beau, hein. Donc, comme tu disais, de la bienveillance, de la douceur dans l'insupportable, hein, ou même, enfin, j'irais même jusqu'à dire parfois l'insurmontable, hein, parfois, selon les ce qu'on vit à ce moment-là. Mais en tout cas, oui, c'est important de se dire qu'on transmet aussi peut-être quelque chose, un petit peu de sagesse avec les Védas, ou un petit peu de présence, en tout cas, d'une véritable écoute, en fait, pour cette transition que tu as très bien décrite, hein. On accompagne la naissance et on n'accompagne pas forcément la mort, alors qu'en réalité, c'est une étape qui amène vers une autre naissance aussi. Et c'est peut-être important aussi pour le malade que ses proches aussi soient accompagnés, parce qu'en fait, c'est un fardeau en moins, c'est peut-être une libération, quelque chose qu'il n'a pas à porter dans ce moment un petit peu difficile aussi de transition pour lui, que de devoir se préoccuper aussi particulièrement de la douleur et de la souffrance de ses proches.
Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment aussi, et d'ailleurs, pareil, la définition de l'OMS en parle aussi, que l'accompagnement soins palliatifs, c'est autant pour la personne qui est malade que pour la famille. C'est très important, non seulement d'aider la personne, mais donc ça peut soulager évidemment l'entourage, la famille, qui est quelqu'un d'autre qui vienne soutenir la personne malade, mais cette personne peut aussi soutenir l'entourage dans leur processus de deuil et dans leur processus d'accompagnement. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes pour qui c'est en effet insurmontable et vraiment très dur, donc de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui fait un travail où on essaie d'être le plus posé, le plus disponible, le plus c'est d'avoir du recul et du discernement, de l'empathie, de l'écoute. Ce sont des qualités qui sont importantes pour le malade, mais aussi pour l'entourage.
Et puis même pour le personnel soignant, hein, d'ailleurs.
Et pour le personnel soignant, tout à fait. Oui. Je pense qu'il y a un travail important. Et là, d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail remarquable du personnel soignant. Enfin, pour avoir eu ma maman hospitalisée à mon domicile, il y a toute une équipe de Superman et Wonder Woman d'infirmiers, infirmières qui étaient justement d'une douceur, d'une disponibilité, d'une présence remarquable malgré, en plus c'était pendant la période de confinement, Covid, etc. Donc ils étaient débordés, mais malgré tout à chaque fois qu'ils étaient là, ils étaient présent à 100%, il ne pouvait jamais comprendre qu'il y avait d'autres personnes, il fallait vite partir. Non, ils étaient là, il y avait vraiment une bienveillance, une douceur, une présence importante. Mais voilà, je vois aussi combien leur travail est coûteux au niveau émotionnel. Et donc là, je pense qu'il y a aussi tout un travail de soutien à faire pour le personnel soignant, en effet.
Oui, c'est clair. Et c'est vrai, c'est ça, c'est cette humanité, en fait, c'est cette grande générosité, ce don de soi, hein, la véritable qualité de présence qui fait toute la différence, en fait, hein, parce qu'on se sent relié, on se sent connecté, on se sent apaisé, parce qu'on voit en fait qu'on n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un qui est vraiment là pour nous, pour les malades, et ça apaise en fait beaucoup. C'est quelque chose qui manque. On est de plus en plus dans l'individualisme, hein, de façon générale, donc on est un peu en quête, un peu de cette sorte de fusion. C'est un peu fort ce que je dis, hein, ce mot fusion, mais en tout cas de trouver en fait cette connexion avec l'humain, avec l'autre, se retrouver apaisé par quelqu'un d'autre aussi qui est là et présent.
Ouais. Oui.
Et en fait, ce qui est étonnant du coup, alors, c'est que, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi c'est utile de se préparer, et moi, en fait, ce que je me demande, c'est pourquoi on ne le fait pas plus. Est-ce que des fois tu as été confronté, peut-être, ou peut-être que tu as vu en fait des personnes qui ne voyaient pas l'intérêt en fait de se préparer, qui disaient que de toute façon c'était comme ça, et puis et puis voilà.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, bon, là, il y a des personnes qui, voilà, qui ont, qui pensent que, voilà, après, il y a plus rien, donc ça sert à rien. mais je pense que, qu'on croit ou pas qu'il y ait que la, voilà, qu'il y ait une poursuite de la vie de la conscience après, je pense qu'on est tous confrontés à une angoisse de mort et que pour apaiser cette angoisse et cette souffrance, ça peut, c'est important qu'il y ait une présence. Et sans qu'on ait à vouloir inculquer des croyances ou des pratiques, des rituels, mais juste d'être là, de dire ok, je suis avec toi, je suis avec vous, on va traverser ça ensemble. Je pense que ça peut être rassurant, en tout cas, et même sur un plan, c'est pour un plan spirituel, émotionnel, mais même auprès sur des plans très pragmatiques, on a aussi des angoisses qui peuvent être liées à des attaches matérielles, à des tracas financiers, etc. Et donc là aussi, c'est justement important d'être accompagné aussi à ce moment-là pour être libéré de ce fardeau pragmatique et immatériel pour pouvoir justement se consacrer à cette introspection. Il y a aussi beaucoup le questionnement souvent cette période-là de est-ce que j'ai réussi ma vie, et donc voilà, d'avoir quelqu'un en face pour faire rebondir des idées, des pensées, des réflexions, ça peut considérablement soulager la personne et pour justement l'aider après à cheminer de manière plus légère.
Oui, donc en fait, c'est toujours utile de se faire accompagner d'une façon ou d'une autre.
Voilà. Il peut y avoir un accompagnement, encore une fois, très pragmatique, matériel, mais qui viendra forcément aider à cheminer dans des sphères plus... émotionnel, psychologique, spirituel.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça, cette préparation du corps et de l'esprit, parce qu'on est toujours en fait sur une approche holistique, évidemment, avec les Védas en tout cas. Savoir que nous ne sommes pas qu'un corps, aussi se dire que il y a ce corps qui souffre, mais il n'y a pas que ça. Alors évidemment, quand le corps est en grande souffrance, évidemment, le reste est en grande souffrance aussi. Mais se dire qu'en fait, on peut aussi se détacher de cette douleur, peut-être, et donc apaiser la douleur, en fait, pour pouvoir profiter des instants qui restent. En tout cas, et puis voir plus clair, redonner de l'autonomie, du pouvoir aussi, donc sur toutes les sphères, pas forcément les sphères que physiques, comme tu le disais, ça peut être aussi matériel, etc. Alléger en tout cas de quelque chose. Et c'est vrai que toi, tu me disais par exemple que tu as vu souvent des aumôniers, des choses comme ça, et pourtant, en fait, on propose pas forcément en fait l'accompagnement avec d'autres choses, d'autres spiritualités ou enfin, je sais pas, comment ça se passe justement.
Oui, alors bon, moi, ce que j'ai pu voir quand justement ma maman, avant d'être hospitalisée à mon domicile, était en effet en structure médicalisée, en hôpital, et bien il y avait en effet la présence d'aumôniers, il y avait la présence aussi de bénévoles formidables d'associations en soins palliatifs, et c'est vrai que moi, j'ai eu l'opportunité en allant rendre visite à ma maman, de lui chanter des mantras, de lui lire Bhagavad Gita, donc d'avoir ce type d'interaction-là. Mais je pense encore une fois que à partir du moment où on amène la personne dans un on lui amène en effet du beau, du bon, c'est quelle que soit la source, la croyance, que ce soit une approche spirituelle, philosophique, tout est bon à prendre. Mais donc il y a en effet cette Cette considération qui est vraiment officielle, encore une fois, qui est même dans la définition de l'OMS, l'accompagnement spirituel est important. Et donc là, c'est vrai que les Védas permettent vraiment, enfin, la raison pour laquelle, bon, après je baigne dedans, c'est sûr, depuis, depuis une dizaine d'années, mais il y a vraiment cette idée de reconnexion ou de enfin de connexion au corps déjà, parce que c'est vrai que parfois on peut être vraiment déconnecté de son corps, on s'est pas occupé de son corps hein, toute sa vie, on a été vraiment dans le mental où on a justement ignoré les signes de détresse qu'il nous envoyait. Donc là, l'idée à travers des techniques de respiration, de méditation ou de massage, ça peut être de l'automassage ou même juste le massage des mains, des choses comme ça, des pieds, qui peuvent voilà nous aider à revenir dans notre corps et en même temps voilà des pratiques qui vont aider à harmoniser, aligner notre voilà nos pensées, notre corps, notre cœur, et donc là c'est les conditions en effet parfaites pour faire cette fameuse transition. En tout cas, c'est la leçon, la grande leçon de vie, c'est cette quête d'éveil, d'alignement du corps, du mental et du cœur.
En fait, oui, parce que du coup, donc tu parles de tout ça, qui en effet, c'est vrai que c'est super intéressant de voir que cette connexion au corps, en tout cas au cœur, à la spiritualité, à sa véritable nature, hein, à son âme, carrément, pourrait vraiment se lancer là-dessus. Elle est fondamentale dans ces grandes périodes de transition qui sont très angoissantes, puisqu'on va changer d'enveloppe, on va se libérer du véhicule qui nous a servi en fait pendant des années dans une certaine incarnation, mais pourquoi les Védas spécifiquement en fait ? Qu'est-ce que les Védas apportent en fait dans cette démarche ? Tu as déjà commencé à répondre en fait, hein, puisqu'il y a cette approche des Védas qui est vraiment holistique, qui considère l'être dans tout ce qu'il est et qui le connecte vraiment à sa vraie nature. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter en tout cas sur l'intérêt des Védas dans cette démarche avant de rentrer justement dans le détail concret de l'accompagnement et des outils ?
Alors. C'est ça, les Védas permettent cet alignement corps, cœur et mental. C'est vraiment, ça fait partie du patrimoine de notre humanité. Ça fait longtemps que ça existe. Et on peut vraiment regarder les Védas comme quelque chose sans nécessairement avoir à adhérer à l'hindouisme, au bouddhisme. C'est quelque chose, encore une fois, des principes universels et holistiques. C'est vrai que je suis surtout, j'ai reçu surtout des enseignements autour de l'Ayurveda et du yoga. Et c'est vrai que tous les principes de l'Ayurveda sont très universels, applicables partout, sur tous les continents, de n'importe quelle culture. Et donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec les Védas.
Et à n'importe quelle époque aussi.
Et à n'importe quelle époque, oui, oui, tout à fait. C'est ça.
Ouais. Et alors, du coup, concrètement, alors, donc, il y a cette connexion au corps, il y a l'importance des sens aussi, hein, renouer avec ses sens. Hein, tu en as parlé plusieurs fois, finalement, notamment à travers le son, mais les autres sens, parce que du coup, le toucher aussi, c'est très important. L'écoute, évidemment, la présence, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a bien sûr la philosophie des Védas, tout ça, mais les autres sens, alors,
Oui, à travers l'odorat. L'odorat étant le sens qui nous ancre aussi beaucoup. Donc, quand il y a des angoisses, d'avoir des odeurs qui nous plaisent vont permettre de nous ancrer, d'apaiser ces angoisses. Donc, ça, c'est important. Il y a donc le goût, bien sûr. Alors, c'est aussi quand la personne est encore capable de s'alimenter, c'est important de lui de lui donner des saveurs. On parle dans l'Ayurveda de la science des 6 différents goûts, donc ces saveurs qui sont importantes pour avoir une satiété à la fois physique mais aussi mentale, émotionnelle, donc quelque chose de goûteux et de quelque chose de beau. C'est extrêmement aussi important de préserver Agni, ce feu digestif, que tout le corps et le métabolisme fonctionnent correctement. Donc il y a le goût, donc l'ouïe avec les chants, les mantras éventuellement, ou l'écoute de textes qui nous inspirent. Et ça peut être des textes sacrés des Védas, mais ça peut être de la poésie, tout ce qui fait du bien à notre cœur à travers l'ouïe. Et donc la vue aussi, bien sûr, voir des choses belles de préférence. Si on peut avoir accès à la nature, c'est toujours mieux. Et puis bien sûr le toucher, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui va aider à ancrer la personne, le massage. On peut simplement, même juste en lui massant les mains, déjà avoir ce contact. Bien sûr, dans l'Ayurveda, on utilise beaucoup l'huile, qui est très l'huile qui est même huile que pour cuisiner, pour que ce soit plus digeste pour la peau.
C'est un organe digestif, la peau. C'est un organe digestif,
exactement. Donc c'est important d'appliquer des matières naturelles sur la peau, et donc le toucher va être évidemment très très important aussi. Donc se reconnecter en effet aux sens et les purifier. C'est vrai qu'on a tendance à vivre notre vie là, surtout depuis plusieurs années devant des écrans, et tout va vite et on est plus dans notre corps où nos sens sont stimuler, mais de manière un peu agressive. Et donc là, de se reconnecter à ses sens, mais de manière douce. Et c'est vrai que ça me fait penser que, on dit que justement dans les moments, surtout, mais là c'est vraiment en fin de vie, qu'au moment de la mort, justement, nos sens sont encore plus éveillés, finalement, et que on dit même parfois que la mort est plus vivante que la vie. On a vraiment une hyper lucidité, une hyper sensibilité, d'où l'importance justement de purifier un peu les canaux pour que les sens soient apaisés et qu'il y ait moins d'angoisse, ce passage.
Ah oui, exactement. Ouais, c'est ça, se reconnecter à soi, la prise de conscience, et puis donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, l'apport en fait de toutes les spiritualités, puisqu'en fait, spiritualité en soi, on n'est pas sur la religion. Hein, je le reprécise au cas où, si jamais il y avait des doutes pendant cette émission, la spiritualité, en fait, c'est une palette aux mille couleurs, hein, qui concerne en fait toutes les croyances. Et tout ce qui peut en fait relier au divin, quelle que soit la forme du divin qu'on lui donne. En tout cas, et en tout cas, nous là on parle des Védas, et toi en tout cas tu utilises beaucoup ça. La philosophie des Védas, elle est extraordinaire et très riche, mais tu te bases beaucoup sur la Bhagavad Gita. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que la Bhagavad Gita?
Oui.
Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout. Oui. Qu'est-ce que ça peut apporter? Pourquoi tu as choisi ce texte de référence
Alors, la Bhagavad Gita, c'est un des textes fondamentaux et sacrés pour les hindous. C'est un texte qui fait partie d'un plus grand texte qui s'appelle le Mahabharata, et qui est une épopée épique, qui est très importante aussi, qui est fondatrice dans la philosophie hindoue. Mais donc le Bhagavad Gita représente ce dialogue entre Arjuna, donc le héros, qui doit aller au combat contre sa famille, on est des cousins, et donc il est complètement désemparé. Il dit à son cocher qui se trouve être un des avatars de Vishnu, une représentation du divin, Mais ça, il ne le sait pas au début. Et donc, il dit à son cocher, ah, non, mais moi, je peux pas, là, je peux pas aller tuer mes cousins. Et donc, c'est là où il y a, et c'est dans le chapitre 2 du Bhagavad Gita que je lis souvent, voilà, aux personnes en fin de vie, qui, Krishna, justement, là, explique le fait que nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas que ce corps, nous sommes une âme et nous sommes donc immortels, et que ce qui est né doit mourir, et ce qui est mort doit renaître. Je vais pas lire le chapitre 2, mais en tout cas, voilà, c'est ça nous remet dans cette conscience que voilà, qu'on quitte ce corps, mais que l'âme continue d'exister et qu'elle reprendra d'autres formes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un texte qui est aussi alors important dans la philosophie hindoue, mais même qu'on utilise beaucoup dans le yoga. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'études de yoga, et ça, on parle dans le Bhagavad Gita de trois types de yoga. Alors, je ne parle pas du type Vinyasa, Ashtanga, Hatha, mais vraiment des trois voies pour atteindre l'éveil. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. Donc, on a Karma Yoga qui est la voie de l'action, qui est la voie de la dévotion à travers l'action, la volonté. La voie Bhakti qui est la voie de la dévotion, là, qui pourrait donc être plus par rapport à la méditation, les chants, voilà, dévotion au divin. Et Jnana Yoga qui est la voie de la connaissance. Donc en fait, ce qui sont finalement les trois voies qui représentent aussi le corps, l'esprit, le mental et le cœur. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un texte qui englobe justement cette vision d'unité et de quête d'éveil, qui, je pense, est un bon un texte qui peut nous aider à nous préparer à rejoindre la maison.
Et oui, alors du coup, alors le temps passe, ça va très vite. Alors, ce que je te propose, Mariam, peut-être, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret, en fait, puisque donc il y a l'accompagnement déjà, moi, avec les Védas en structure médicalisée, mais aussi à domicile. Hein. Mm-hmm. Donc, toi, tu as plein de qualités pour ça c'est certain. On l'a pu le voir, en tout cas, à travers toute cette émission, ta bienveillance, ta douceur, ta présence, enfin, tout ce que tu dégages, de toute façon, déjà, doit être extrêmement apaisant pour les personnes en soins palliatifs. Donc ça doit vraiment être top. Et donc, alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, en fait, concret d'une expérience peut-être qui t'a touchée, qui t'a marquée avec les soins palliatifs, où les Védas ont apporté en fait une vraie différence, quelque chose.
Alors, dans mon expérience personnelle, c'est vrai que par exemple, pendant que j'accompagnais donc ma maman, je sais que de lui chanter des mantras, alors à un moment donné où elle n'avait plus du tout la parole, où on disait même que la mémoire n'était plus là, que ses facultés cognitives en gros n'étaient plus là. Ce qui m'a marqué vraiment, c'est en chantant justement des mantras, que son regard et sa présence étaient 100% là. Il y avait vraiment une lumière dans ses yeux, et en effet comme une hyper lucidité qui était absolument éblouissante. Et puis là, justement, sur un de mes amis que j'ai aussi accompagné de loin en fin de vie, enfin, j'ai soutenu en tout cas sa compagne qui l'a soutenue en fin de vie et qui fait aussi de l'Ayurveda, dans les soulagements d'occlusion intestinale à travers l'activation de points marma et de chants de mantra, qui est aussi là, soulagé physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. C'est des pratiques un peu longues, mais là où l'intention a fait que ça a vraiment libéré beaucoup de choses, encore une fois, physiquement, mentalement, émotionnellement. Là où là où des traitements allopathiques galéraient un peu à soulager la personne. Donc, voilà.
Wow, c'est des très beaux exemples. Mmh. En tout cas, enfin, mes pépites, je vous rappelle que Mariam, elle est la fondatrice de Mamtananda Ayurveda. Et donc, du coup, vous pouvez aller sur son site pour voir en fait toutes ses activités. Hein. Donc, tu accompagnes aussi bien à domicile avec les Védas, donc pour les soins palliatifs, qu'en structure médicalisée. Tu travailles également avec le personnel soignant, c'est important de le préciser. Mmh. Et justement, pour terminer, moi, Mariam, j'aurais une question, quelque chose que j'aimerais que tu dises à nos auditeurs. Quelle est la signification de Mamtananda?
Ah. Alors, Mamtananda, c'est en fait c'est deux mots, Mamta et Ananda. Mamta, ça peut être traduit par l'amour, l'affection, et plus généralement, je m'en l'amour maternel, et Ananda veut dire divin. Donc, c'est l'amour maternel divin. Et c'est le nom yogique que m'avait donné un de mes maîtres spirituels en Inde. Voilà.
Et oui, puis Ananda, c'est même la joie, la béatitude.
C'est ça, oui, c'est ça aussi. Il y a de la joie, ça c'est sûr.
Ah ben oui. toujours. Même dans les moments tristes.
Oui. Mais il n'y a pas de séparation.
Exactement, c'est ça. Moi, j'avais envie de terminer avec ça parce que c'est exactement ce que tu incarnes. Et j'espère que tu pourras accompagner de nombreuses personnes, comme une maman un peu, hein, comme une mère lumière dans ces moments compliqués, puis aussi dans les fins de vie. Hein, parce que ce n'est pas que des fins de vie, hein, les soins palliatifs, mais en tout cas, bon, c'est quand même beaucoup ça. Finalement, son nouvelle naissance aussi vers quelque chose d'autre. Donc, ce lien, en fait, avec la mère, le côté maternel, tout ça, c'est quelque chose qui te va bien et qui est tout à fait adapté, en fait, là.
Merci beaucoup. Je suis honorée.
Alors, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, peut-être, pour nos auditeurs?
Eh bien, de laisser s'exprimer le vivant en chacun, à tout moment. D'avoir conscience que la vie ne s'arrête pas à la mort et en tout cas de célébrer le vivant jusqu'au bout et même après.
Bon, et ben en tout cas, et quels sont tes projets à venir? Peut-être tes actualités, il y a des choses, Mariam, que tu voudrais partager?
Je poursuis toujours mes des ateliers. Enfin, je donne des ateliers autour de l'Ayurveda, du yoga, de l'Ayur yoga, donc du yoga pratiqué avec une des lentilles ayurvédiques. Je fais également des retraites que j'anime donc dans des éco-gîtes de découverte d'Ayurveda, du yoga. Et donc là aussi, c'est souvent avec thème en fonction du moment. Mais il peut y avoir des discussions autour des rituels ayurvédiques, yogiques ou védiques en général. Donc voilà. Et puis bien sûr, cette focale sur l'accompagnement en soins palliatifs ou en fin de vie ou l'accompagnement au deuil pour les personnes. Pour la famille, pour les proches.
Oui, tu dois être une des seules qui est spécialisée dans les Védas et les soins palliatifs, avec ce profil-là.
Je ne sais pas, mais...
je pense. Ça apporte une véritable richesse. Hein. Toute la palette en fait, de ce que tu peux offrir, c'est quelque chose qui fait une vraie différence, un vrai plus dans cet accompagnement.
En tout cas, c'est un honneur et un privilège de pouvoir de contribuer ainsi à honorer les Védas et le divin en chacun.
En tout cas, mes pépites, vous retrouverez toutes les informations sur Mariam sur son site internet, donc mamtananda-ayurveda.com, et sur sa page Facebook. Mariam, elle est à proximité de Toulouse, hein, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec elle pour de l'Ayurveda, du yoga nidra, du Reiki, hein, ou pour justement l'accompagnement en soins palliatifs avec la sagesse des Védas, l'accompagnement au deuil, comme elle l'a dit. Est-ce que tu fais des accompagnements à distance ou pas, Mariam?
Oui, 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 ça peut se faire à distance, oui, tout à fait.
Donc, aucune excuse, hein, mes chers petits. Voilà, vous avez toutes les informations sur Mariam dans la description de l'émission, comme toujours. Donc, vous pourrez la contacter directement. Et en ce qui concerne l'Ayurveda Sourire, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi en présentiel ou à distance. Bon, moi, je suis à Paris. Toutes les informations sont sur mon site internet www.mihira-ayurveda.com. Mihira, ça s'écrit M-I-H-I-R-A. Vous pouvez également découvrir mon livre « L'Ayurveda Sourire, quand la joie du cœur et la santé du corps » aux éditions Marie-Claire, en version papier et en livre audio, aussi sur Audible, pour ceux qui n'aiment pas lire. Et bien sûr, vous pouvez suivre toute mon actualité sur, toute l'actualité de l'Ayurveda Sourire sur les réseaux sociaux via Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A Ayurveda. Un grand merci, Mariam, pour cet échange.
Un grand merci à toi, Gwenaëlle.
Et merci, mes pépites, pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires. Et surtout, souvenez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.